Voilà, que le Seigneur soit béni. Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes heureux d'être au pied du Seigneur pour écouter sa parole. La première fois, la deuxième fois, nous avons parlé de l'action du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Nous avons vu trois choses essentiellement concernant l'Esprit dans l'Ancien Testament, c'est qu'il qualifie, il communique et il conduit. Et aujourd'hui nous allons voir son action donc dans le Nouveau Testament qui est beaucoup plus vaste, on va s'en rendre compte, diversifié et beaucoup plus développé que dans l'Ancien Testament. Si bien que en une réunion, on a pu faire tout l'Ancien Testament, mais là, il nous faudra plusieurs pour voir, premièrement, la régénération, ensuite la sanctification que le Saint-Esprit opère, le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels et puis le fruit de l'Esprit. Donc il y a tout un programme, toute une dimension dans la vie de l'Esprit qui s'ouvre dans la Nouvelle Alliance, qui toutefois, et je voulais le souligner en introduction, était prophétisé déjà dans l'Ancien Testament. Car nous connaissons des passages comme Joël, des passages bien connus, plusieurs prophètes, il y a Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Joël, ils ont annoncé une Nouvelle Alliance qui viendrait, la Nouvelle Alliance, c'est Jésus qui l'a introduite, et cette alliance serait marquée particulièrement par l'action de l'Esprit. Je vous cite Joël 2, 28 qui disait « Après ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. » Donc ces prophètes qui vivaient sous l'ancienne alliance où le Saint-Esprit agissait de manière limitée, ponctuelle et disons dans des buts précis pour qualifier, etc. On en a parlé la semaine dernière. Ils voyaient déjà venir spirituellement, ils avaient reçu ces révélations, cette vision qu'un jour viendrait où l'Esprit de Dieu serait répandu sur toute chair, que le Saint-Esprit agirait partout. Et Jésus a même prévenu les disciples, il a dit « Il vous est avantageux que je m'en aille car je vous enverrai le Consolateur ». C'était la même pensée que les prophètes de l'Ancienne Alliance. Et effectivement, une fois que Jésus, à l'ascension, est monté au ciel, il a, quelque temps après, envoyé le Saint-Esprit qui est tombé sur les 120, qui étaient rassemblés le jour de la Pentecôte dans la chambre haute. Et puis, depuis lors, depuis cette Pentecôte, que nous fêtons aussi chaque année, bien nous, comme un chant nous le dit, dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Donc on a changé d'alliance, on a changé de mouvement de l'Esprit. Il y avait l'ancienne alliance, maintenant nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous allons voir un premier point, parce qu'aujourd'hui nous allons essentiellement parler de la régénération, ou un autre mot synonyme, la nouvelle naissance. Nous allons voir premièrement la nécessité de la régénération et lire un texte dans Jean chapitre 3, verset 1. Jean chapitre 3, verset 1. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Donc la régénération, une nécessité. Qu'est-ce que la régénération? Premier point, donc une définition. Alors la régénération, c'est un changement de nature qui se produit en l'homme par le Saint-Esprit. C'est une transformation à la fois morale et spirituelle, et on pourrait l'appeler aussi le point de départ de notre vie chrétienne. C'est pourquoi ici il est mentionné « naître de nouveau », « naître d'en haut ». De même que l'on est né une première fois physiquement, tout à l'heure on a présenté le petit Ilyès, béni soit le Seigneur, mais on est tous passés par là. Peut-être on ne s'en rappelle plus avec les années, mais on a tous été des petits bébés, parce qu'on est né une première fois. Qui n'est pas né une première fois? Il n'y a personne, tout le monde. Tout le monde est né une première fois, on a tous été bébés. De même, spirituellement, il nous faut naître aussi. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Cette naissance spirituelle, peut-être tout le monde ne l'a pas vécue encore, par contre. Bien sûr, cette naissance spirituelle est indispensable pour naître à la vie de Dieu, pour connaître Dieu et vivre selon sa volonté. Et j'aimerais attirer votre attention sur ceci. On confond parfois la conversion et la régénération, qui sont deux choses différentes. La conversion, c'est un demi-tour que l'homme fait parce qu'il est dans une mauvaise voie. Conversion, ça veut dire changer d'orientation. Nous étions tous sur la voie de la mort, la voie du péché, le chemin large et spacieux dont dit Jésus, et nous allions vers la mort. Conversion signifie faire demi-tour et suivre le seul vrai Dieu. C'est une décision que nous prenons, c'est un acte qui est nécessaire, bien sûr, pour suivre le bien, il faut se détourner du mal. Et ça se fait parfois dans le temps, et ça demande un certain temps pour qu'une personne fasse une conversion. Et on peut dire « je me suis converti ». Tandis que la nouvelle naissance, ou la régénération, c'est différent. La régénération, c'est l'action du Saint-Esprit dans une personne qui va lui donner une vie spirituelle. Et ça, ça se fait instantanément. C'est en fait l'aboutissement d'un long processus de la conversion. La conversion va mettre un certain temps, mais l'aboutissement, c'est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, on doit bien comprendre que ça ne provient pas d'une décision personnelle. Je ne peux pas décider de naître de nouveau, mais ça vient d'une action extérieure à moi, de l'action de l'Esprit qui va me faire naître de nouveau. C'est pour ça qu'on dit « j'ai été régénéré ». Je me suis converti, j'ai pris une décision, mais j'ai été régénéré, donc l'Esprit m'a fait naître à la vie de Dieu, et ça je ne pouvais pas le faire moi-même. Deuxième chose qu'on voit, toujours dans la nécessité d'une régénération, c'est l'état spirituel de l'homme. Donc premièrement, il est handicapé et aveugle. Alors on va lire deux versets où c'est souligné dans la bouche de Jésus. C'est le verset 3 et le verset 5. Toujours dans Jean 3. Hein. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc, il est aveugle. Et puis, l'autre verset, c'est le verset 5. Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, il est handicapé. Pourquoi j'ai pris ces deux expressions? L'homme naturel, son état spirituel naturel, il est aveugle et il est handicapé tant qu'il ne connaît pas le Seigneur. L'expression « naître de nouveau » que l'on a lu, littéralement dans le grec, c'est « naître d'en haut » qui évoque davantage cet aspect que c'est Dieu qui nous fait naître à la vie. Naître d'en haut, naître de Dieu on pourrait dire. Et les termes « voir » et « entrer » qu'on a lu exprime la même réalité, c'est-à-dire de faire l'expérience du royaume de Dieu. Parce que voir, entrer, c'est-à-dire réaliser que le royaume de Dieu existe et que je peux en faire partie. En fait, on se rend compte dans la parole que l'être humain par lui-même est totalement incapable de se sauver. Et il a besoin de Dieu. Et si Dieu n'intervient pas pour le sauver, il reste perdu pour toujours. Donc le salut, on s'en rend compte, c'est véritablement l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui nous sauve. Jésus a dit « tout est accompli à la croix », c'est lui qui a accompli notre salut. Bien sûr, il nous faudra croire, mais tout est déjà accompli en Christ. Et l'expression « naître d'eau et d'esprit », vous voyez, on peut faire un parallèle avec « naître de nouveau ». Pour ça, je vous souligne les versets 3 et les versets 5 de les mettre en parallèle, parce que naître de nouveau et naître d'eau et d'esprit, c'est le même sens, c'est des synonymes. C'est-à-dire que naître d'eau et d'esprit, certains ont vu là, dans l'eau, le baptême qui introduit la vie chrétienne, mais il ne semble pas que ce soit le sens ici. D'autres y ont vu une référence à la parole de Dieu qui est parfois le symbole de l'eau. Par exemple, Paul dit « Nous avons été lavés par l'eau de la parole ». Mais beaucoup plus simple, je pense, comme pas mal de commentateurs, que ici Jésus reprend une pensée déjà du prophète Ézéchiel, verset 36, où vous avez dans cette prophétie l'eau et l'esprit qui sont liés pour la régénération. Ézéchiel 36, verset 25. C'est une prophétie, bien sûr, qui annonce justement la nouvelle alliance. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Il disait ceci, Ézéchiel 36, 25, « Je répandrai sur vous une eau pure. » Alors vous remarquez l'eau. « Et vous serez purifiés, je vous purifierai de toute souillure et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Et puis verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Alors sous ces termes-là, Ézéchiel est en train d'annoncer la nouvelle alliance, où il sera question de vie nouvelle, de nouvelle naissance, ce sera les termes de Jésus. Mais remarquez les deux termes clés, au verset 24, verset 25, je répandrai sur vous une eau pure, et verset 27, je mettrai mon esprit en vous. L'eau purifie, l'esprit sera en vous. L'eau, si vous voulez, c'est le symbole, parce que l'eau ne purifie pas le cœur, mais elle est utilisée de manière symbolique, puisque l'eau, on sait qu'elle purifie. Donc, on sait que l'eau, ça sert à ça. Mais la réalité qu'on vit, nous, spirituellement, c'est pas une eau, c'est même pas l'eau du baptême qui nous lave. C'est l'eau du Saint-Esprit, en fait. C'est le Saint-Esprit qui nous purifie, qui purifie notre âme à l'intérieur, et donc, c'est la réalité spirituelle. C'est pour ça, dans la version Semeur, si vous l'avez, il traduit ce verset qu'on a lu de Jésus. Il vous faut naître, donc, le verset 6. Il dit, le verset 5, pardon. « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, c'est-à-dire d'esprit. » Et c'est une manière tout à fait possible de traduire ce passage. « Naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. » Et l'eau serait donc un symbole de l'action véritable de l'esprit qui vient ensuite. Deuxième condition de l'homme qui n'est justement pas, qui ne croit pas en Dieu, il est sourd. Ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, c'est l'homme naturel. Paul dit que l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc Paul nous explique que l'homme naturel, il est sourd à la voix de Dieu. Il est gouverné entièrement par son âme, par ses impulsions, et il n'a pas de relation avec Dieu. Il est totalement imperméable aux choses de l'esprit. Il ne les entend pas, il ne les comprend pas, parce que nous avons tous un entendement, nous avons tous hérité d'un raisonnement, d'une intelligence que nous utilisons pour les choses de cette terre. Mais Paul dit ce raisonnement, cette intelligence si utile pour les choses matérielles deviennent incompétents pour les choses spirituelles, car c'est d'une autre manière qu'il nous faut penser, qu'il nous faut raisonner. De sorte qu'un simple enfant peut être plus avancé spirituellement qu'un adulte qui pourtant a un raisonnement beaucoup plus développé au niveau de l'intelligence, mais qui au niveau spirituel est toujours mort. Mais si un enfant reçoit Jésus dans son cœur, bien lui il peut être amené à la vie de Dieu et connaître des choses de Dieu. Bien qu'il ait un raisonnement peut-être humain sur le plan intellectuel plus limité, mais sur le plan spirituel, il peut avoir des connaissances de Dieu beaucoup plus vastes. Donc ça, c'est un autre point, il est sourd. Troisième, il est captif, c'est-à-dire il est prisonnier. Jean chapitre 8, versets 34 à 36, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. La plupart du temps, l'homme ne le sait pas, mais il est esclave d'un maître qu'il ne connaît pas, c'est Satan. Il est esclave du péché. Satan règne en maître sur ce monde et tient les hommes captifs. C'est ce que Jésus explique. Et la plupart du temps, les hommes sont dans l'illusion qu'ils sont libres. Mais en réalité, non. Ils sont esclaves du péché. C'est une chaîne invisible, mais c'est une chaîne solide que Satan a placée sur chaque individu dès la naissance pour les tenir sous son autorité. Cette chaîne, c'est le péché. Et le péché nous rend tous ennemis de Dieu. Alors nous ne pouvons pas briser cette chaîne. On n'en a pas la force. Déjà, on ne le sait pas forcément qu'on a une chaîne. Et puis, on n'a pas la capacité de la briser nous-mêmes. Ainsi, bien des gens vivent encore dans les liens aujourd'hui autour de nous. C'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, tous ceux qui n'ont pas accepté Christ dans leur vie, ils sont toujours avec cette chaîne invisible sur eux. La seule solution, c'est que le Fils nous affranchisse. Comme on l'a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est-à-dire que Jésus est le seul qui a le pouvoir de briser cette chaîne invisible du péché qui nous tenait captifs pour nous arracher aux griffes de Satan et nous introduire dans le royaume de Dieu. Alors, frères et sœurs, nous qui sommes sauvés, nous qui avons reçu Jésus, nous étions captifs, cette chaîne a été brisée. Mais si quelqu'un n'a pas Jésus dans son cœur, il y a toujours cette chaîne invisible qui le tient lié. Quatrièmement, et c'est le pire, c'est la mort. C'est-à-dire l'homme, spirituellement, il est mort. Éphésiens 2, versets 1 à 2, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Depuis Adam, tous les hommes ont connu le péché. Adam, lorsqu'il a péché, il y a trois morts qui sont entrées. Premièrement, il y a la mort spirituelle qui a été immédiate, c'est-à-dire il a été séparé d'avec Dieu. Ensuite, il y a la mort physique qui est intervenue. Par la suite, il est retourné à la poussière de la terre. Et puis, troisièmement, la mort éternelle. Pour celui qui ne croit pas en Dieu, eh bien, c'est la condamnation à vivre éternellement séparé de lui. La première donc mort qui est intervenue dans le monde, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Et on peut très bien être vivant physiquement, mais mort spirituellement. C'est deux choses différentes, parce que Adam, si on regarde son exemple, il pouvait parler, il pouvait ressentir, il pouvait faire toutes sortes de choses, mais il était mort spirituellement, tout en vivant physiquement. Alors, tous les hommes sont contaminés par cette mort. Dès la naissance, c'est ce qu'on appelle le péché originel. Depuis Adam, on est tous pécheurs. Pécheurs, qu'on ait fait le bien, qu'on ait fait le mal, on est pécheurs. C'est un fait, c'est notre nature. Et ça, on ne peut pas le changer, sauf si on vient à Christ. C'est la conséquence du péché qui a été contracté avec Adam. Adam qui était le représentant de l'humanité, qui a fait faillite et qui a entraîné toute l'humanité dans le mal. Et la conséquence du péché, ou l'aboutissement logique d'une vie séparée de Dieu, c'est la mort éternelle. Bien sûr, il y aura la mort physique, mais ensuite la mort éternelle, c'est-à-dire le feu, la géhenne, Jésus en parle. Ainsi, tous les hommes sont perdus, tous les hommes sont séparés de Dieu, ils ne peuvent rien faire pour changer leur condition, à moins que, c'est là qu'on va y venir, qu'ils ne soient régénérés, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent cette vie spirituelle. Je reviens à notre texte de Jean 3, parce que Jésus parle ici de naître de nouveau. Celui qui n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer, il ne peut pas voir. Eh bien, ça veut dire que sans cela, on est perdu. C'est pour ça que la Bible parle aussi de résurrection spirituelle. Tant qu'on n'est pas vivant spirituellement, on est séparé de Dieu. Troisième point qu'on peut voir, c'est maintenant la conviction de péché. Donc, on a vu l'état spirituel de l'homme, incapable de se tourner vers Dieu, il est aveugle, handicapé, sourd, captif, mort. Maintenant intervient l'Esprit de Dieu, qui va permettre une conviction de péché. Jean chapitre 16, verset 8 nous dit « Et quand il sera venu, c'est-à-dire le Consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Effectivement, si l'homme est perdu, il est séparé de Dieu, et le problème est qu'il ne le sait pas la plupart du temps, et qu'il a besoin de le réaliser. Alors c'est vrai que les hommes autour de nous, tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, il y a un certain vide dans leur cœur quand même. Ils ne sont pas forcément heureux, il y a des questions qui se posent sur la vie éternelle, pourquoi on est sur la terre, mais ils n'ont pas forcément la réponse. Et ils ne savent pas forcément que le problème, ça vient du péché. Et on était tous comme ça, on ne réalisait pas la gravité de notre situation spirituelle et la gravité du péché aux yeux de Dieu. Et c'est là que le Saint-Esprit intervient, c'est ce qu'on appelle la conviction de péché. C'est le Saint-Esprit qui va nous faire sortir de cette illusion dans laquelle nous étions, parce qu'on était dans ce monde, on ne savait pas trop pourquoi, etc. Mais le Saint-Esprit nous a éveillés et nous a montré que nous étions pécheurs et que nous étions séparés de Dieu. Et c'est là ce verset qui dit « Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché ». Donc notre conscience a été éveillée et il y a trois éléments. Le péché, la justice et le jugement. Dans ce verset, vous voyez, il y a trois éléments. En ce qui concerne le péché, parce que c'est vraiment le problème numéro un de l'homme, c'est un cancer invisible de l'âme qui nous a contaminés. On peut l'appeler aussi de l'encre indélébile, on ne peut pas l'effacer. Le péché est une marque du diable sur nos vies. Et tant qu'on n'a pas réglé ce problème, on est perdu. Le deuxième, c'est qu'il nous convainc de la justice parfaite de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous fait réaliser que Dieu est parfaitement juste dans son jugement et que tout pécheur mérite la condamnation. Et troisièmement, le Saint-Esprit nous fait réaliser qu'il va y avoir un jugement, le jugement de Dieu, qui va tomber sur tous ceux qui ne croient pas, un jugement parfait, sans appel. Et si vous voyez ces trois éléments, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il se réfère à la croix. Car Jésus, à la croix, a porté nos péchés, mais la justice de Dieu est tombée sur lui et il a subi notre jugement. Et c'est donc en venant à la croix de Christ que l'on est libéré de ces trois choses, péché, justice et jugement, que Jésus a endossé à notre place. Mais le Saint-Esprit nous fait réaliser ces choses, c'est-à-dire il nous fait prendre conscience de notre triste condition de perdu vis-à-vis de Dieu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Quand le Saint-Esprit nous convainc de péché, on va rentrer dans une crise spirituelle. Et il y a deux possibilités à l'issue de cette crise, parce que l'homme tout d'un coup réalise qu'il est pécheur. L'homme tout d'un coup réalise la gravité du péché. Ce n'est pas pour ça qu'il est encore sauvé. Ce n'est pas parce qu'il y a une conviction de péché qu'il est sauvé. Mais déjà, il réalise sa situation de perdu. Deux solutions. Soit on se repent et on demande pardon pour ses péchés et on accepte Jésus dans son cœur. Soit on résiste à l'appel de Dieu qui veut nous sauver. On s'endurcit et on refuse la grâce de Dieu. Vous avez toujours ces deux possibilités. Et tous les croyants, ce sont ceux qui se sont repentis. Et j'en viens à un quatrième élément, c'est dans Jean chapitre 3, verset 7, c'est l'impératif de Jésus. Parce que Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus ne dit pas, c'est une option, c'est pas vraiment indispensable, si tu as le temps, tu y penseras. Non, il dit que c'est un impératif, que c'est nécessaire, que c'est urgent, et il ne faut pas remettre ça à demain, mais il n'y a pas d'autre moyen pour expérimenter le royaume de Dieu, pour le voir, pour y entrer, c'est en naissant de nouveau. Et tous ceux qui n'ont pas fait cette expérience sont encore perdus. Et n'oubliez pas que Jésus s'adresse à Nicodème. Nicodème qui est un juif pieux, qui est sérieux, qui même a une bonne opinion de Jésus, qui considère Jésus comme quelqu'un de fort important. Eh bien, pour Nicodème, il est encore perdu tant qu'il n'est pas né de nouveau. Ce qui signifie qu'on peut être devant la porte du salut, car Nicodème est devant Jésus, il peut être sauvé instantanément, et pourtant, il n'est pas encore entré par la porte du salut. Il y a une notion très importante à saisir, c'est qu'on peut être tout près, on peut être tout près d'une pièce sans y être entré. Et le salut, c'est entrer. Entrez par la porte étroite, dit Jésus, entrez et suivez le chemin étroit, mais il va falloir entrer à un moment donné. Et c'est comme ça qu'on peut être sauvé, et ça fait référence à la nouvelle naissance. Alors, c'est vrai qu'il ne s'agit pas de se décider à devenir chrétien. Par exemple, des fois on fait des appels au salut. Qui veut accepter le Seigneur? Alors on a la volonté, on peut lever la main et dire « moi je le veux, je le veux ». On a la volonté de suivre le Seigneur, mais on n'a pas le pouvoir, je le disais tout à l'heure, on n'a pas le pouvoir de naître de nouveau. Et pourtant Jésus dit « il faut que tu naisses de nouveau ». Ce n'est pas simplement suivre le Seigneur, mais il faut vivre cette expérience de la nouvelle naissance. Un jour même, les disciples ont posé cette question à Jésus, mais qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Et Jésus répond clairement, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Combien même l'homme voudrait, sa volonté en elle-même ne suffit pas pour son propre salut. Il faut encore que Dieu le fasse naître de nouveau. Et ça, c'est l'action de l'Esprit dans un cœur. Béni soit le Seigneur qui nous a fait grâce et qui nous a fait naître de nouveau. Si quelqu'un n'a pas vécu cette expérience toutefois, eh bien, on peut prier le Seigneur, que Dieu vous fasse cette grâce, vous naissiez de nouveau, car tant que vous n'avez pas vécu cela, vous êtes encore perdu. Vous n'avez pas le Seigneur dans votre vie, vous avez peut-être la volonté, le désir, et c'est une bonne chose, mais le pouvoir appartient à Dieu, et on peut prier le Seigneur qu'il fasse ce miracle dans votre cœur. Deuxième grande partie, ce sont les facteurs de la régénération. Et là, on va lire un premier texte, parce qu'il y a trois facteurs de la régénération. Il y a la parole de Dieu, il y a l'eau du Saint-Esprit, et puis il y a la foi en Christ. Concernant la parole de Dieu, et on va voir que la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, agissent de concert dans la régénération, sont les facteurs de la régénération. Premier, c'est la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 1. Verset 23. Ce verset dit « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc pour naître physiquement, alors si vous voulez, Pierre il prend un peu l'illustration de la semence. Pour naître physiquement, il a fallu une semence humaine, on va dire mortelle, éphémère, qui nous a donné la vie, mais une vie qui aboutira à la mort physique. Tandis que pour naître spirituellement, il faut aussi une semence, dit Pierre, mais ce n'est pas une semence terrestre ou périssable. Il dit que ça va être une semence céleste, éternelle. Et si nous naissons de cette semence-là, qui est invisible, qui est la nouvelle naissance, eh bien à ce moment-là, nous accéderons à la vie éternelle. Nous aurons une vie éternelle. La parole de Dieu est semée. C'est ce que nous soulignons dans 1 Pierre 1, 23. Cette parole vivante et permanente de Dieu, c'est une semence. Elle est semée de toutes sortes de manières. Quand des émissions radio ou sur Internet ou à la télévision sont diffusées sur la parole de Dieu qui prêche l'évangile, etc., la parole de Dieu est semée. Je pense aussi au Gédéon qui distribue des Nouveaux Testaments, dans les hôtels, dans les prisons, en tout lieu, on peut dire que la parole de Dieu est semée. Et combien de fois nous avons des témoignages où cette parole semée bien, va produire des nouvelles naissances, soit dans les prisons ou même sur des bancs publics. J'entendais ce témoignage de ce petit livre des Gédéons, le Nouveau Testament, qui avait été laissé sur un banc public par quelqu'un, peut-être qu'il l'avait reçu, qui n'en avait pas trouvé l'utilité, je ne sais pas. Et puis une autre personne qui s'était assise en le lisant, qui a découvert qui était Jésus, qui a donné son cœur au Seigneur. Une parole semée, comme cela, produit une nouvelle naissance. Et c'est merveilleux de voir cette œuvre de Dieu. La parole de Dieu est semée lorsqu'elle est prêchée, lorsque nous annonçons le salut, lorsqu'il y a de l'évangélisation, lorsqu'il y a des campagnes d'évangélisation, etc. Sème la parole à grande échelle. Et cette semence contient en elle-même toute la puissance nécessaire pour communiquer la vie. La parole est toujours puissante et efficace. Cependant, Jésus nous l'explique dans la parabole du semeur, c'est que cette parole doit tomber pour produire du fruit dans un terrain fertile. Et quand Jésus parle des terrains, il va évoquer quatre terrains. Alors il y en a où il y a des pierres, il y en a où il y a des épines, il y en a où c'est le long du chemin, c'est un terrain qui ne reçoit pas la parole, la semence. Mais il y a un terrain parmi les autres, qui permet que cette parole produise du fruit. Ça veut dire que naturellement, notre cœur, il n'est pas propice à recevoir la parole de Dieu. Naturellement, nous sommes enclins à étouffer la parole et à la rendre infructueuse. C'est pourquoi Jésus parle du terrain, la bonne terre qui a été labourée. Ce qui me fait penser que notre cœur doit être brisé. Notre cœur doit être contrit pour recevoir la parole de Dieu, sinon elle ne pourra pas produire son fruit. Premier facteur, la parole. Deuxième facteur, c'est l'eau du Saint-Esprit. Dans Tite, chapitre 3 et le verset 5. Donc vous avez le texte. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et c'est l'expression « le bain de la régénération », qui n'est pas le même mot que le mot « baptême ». D'où la confusion avec la traduction « second » à l'origine, qui traduisait le baptême de la régénération. Mais ce n'est pas le mot « baptismo », si c'est un autre terme, qui signifie le bain, c'est-à-dire un bain pour se nettoyer, pour se purifier. Et Paul rappelle ici, dans ce verset, que le salut ne provient pas des bonnes œuvres. S'il nous a sauvés, ce n'est pas à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. En fait, les œuvres ne sont pas inutiles toutefois. Il ne faut pas dire parce qu'on est sauvé par grâce, les œuvres c'est rien, non. Car l'épître de Jacques nous le rappelle, il nous faut, par nos œuvres, démontrer notre foi. Mais la foi, si vous voulez, va produire en nous des œuvres, va nous pousser à faire de bonnes choses pour Dieu. En fait, les œuvres sont la conséquence d'une vie régénérée. Et le salut provient de la miséricorde de Dieu, c'est ce que dit ce verset. C'est pas par les œuvres de justice, mais selon la miséricorde. Miséricorde, ça veut dire que Dieu a eu le cœur sensible à notre misère. Il a vu notre situation de péché, il a envoyé Jésus pour nous sauver. C'est ça la miséricorde de Dieu. Ce qui nous rappelle bien sûr que le salut nous vient de Dieu. Et puis enfin, il y a le bain de la régénération, le bain de la nouvelle naissance, qui évoque la purification que le Saint-Esprit va opérer dans nos cœurs. Et remarquez que ce verset est en parfaite harmonie avec l'enseignement de Jésus, parce qu'on a dit tout à l'heure que Jésus disait « Il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit ». Et ici, il est question du bain de la régénération et du renouvellement de l'esprit. Nous avons donc cette pensée que l'eau, effectivement, l'eau qui purifie, c'est vrai, et même pour les Juifs, hein, ils avaient coutume de prendre des bains rituels dans un mikvé, par exemple, avant d'aller au temple, etc. Et ils s'immergeaient totalement. C'était un bain. Mais l'eau ne purifiait pas l'âme. L'eau, c'était symbolique. L'eau, si vous voulez, il passait dans l'eau, effectivement, mais l'eau n'a aucun pouvoir agissant pour purifier une âme. Par contre, le bain de la régénération, c'est-à-dire l'eau de l'esprit, elle a un pouvoir pour nettoyer notre âme et pour purifier notre cœur. Ça, oui. Donc, si l'eau naturelle peut purifier les souillures de la terre, il nous faut une eau spirituelle qui va purifier les souillures de l'être intérieur. C'est l'eau de l'esprit. Et puis, le renouvellement dont il est question et le renouvellement du Saint-Esprit. Littéralement, c'est le renouveau, la rénovation, un changement complet vers le meilleur. C'est ce que le Saint-Esprit crée en nous. Et ça fait référence à la nouvelle création que Dieu fait. Vous connaissez ce verset, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Bien, c'est l'Esprit qui crée en nous cette nouvelle nature. Le Seigneur donc le permet, nous avons une nouvelle nature, et Paul l'exprime par d'autres mots en parlant de On s'est dépouillé du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Et cet homme nouveau, c'est la nouvelle nature. Bon, vous avez plein de textes comme ça. Je peux juste en citer un, c'est Colossiens 3:9, par exemple, qui le montre très bien. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Dieu a créé en nous un homme nouveau. Et c'est ça, cette nouvelle naissance qui est venue par le bain de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit. Voilà, tous ces textes sont liés, imbriqués les uns avec les autres. Et puis le troisième élément, c'est la foi en Christ. Troisième facteur de la régénération, eh bien Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne viendra point à la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Et 1 Jean chapitre 5, verset 1, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. » La foi est indissociable de la vie nouvelle que nous recevons, car elle va permettre à la semence de se développer dans notre cœur, de prendre racine. La foi dans la parole de Dieu, la foi en Dieu. Alors, peut-être c'est important de distinguer ici la foi de la croyance ou du savoir. Parce qu'il y a des gens qui savent, par exemple, ils peuvent savoir intellectuellement que Dieu existe, ou qu'ils vont l'appeler quelque chose, une force créatrice existe, tout en refusant de croire en Jésus et en Dieu. On peut dire qu'ils ont un savoir, mais ils n'ont pas la foi. D'autres, ils vont avoir une croyance. On peut avoir une croyance religieuse. Par exemple, une croyance religieuse très commune consiste à croire que si je pratique bien certaines œuvres, Dieu me sera favorable et je serai sauvé. Voilà. Ça, c'est une croyance assez admise dans les religions. Eh bien, ce n'est pas cette croyance-là qui est la foi. C'est une croyance dans une pratique, c'est une croyance dans des dogmes, c'est une adhésion à des, même des textes bibliques, on peut y adhérer sans y croire, ou des dogmes, etc. Mais la foi, c'est différent. On peut dire, pour résumer, que la croyance, elle est d'origine humaine, intellectuelle, mais pas spirituelle. Tandis que la foi, elle est d'origine divine et spirituelle. Et on est sur deux mondes différents. Car Jésus n'a pas créé les religions. J'entendais quelqu'un qui disait dernièrement qu'il y a dans ce monde 10 000 religions qui ont été créées. Mais ce n'est pas Dieu qui a créé toutes ces religions. C'est les hommes qui ont multiplié par leur quête, leur soif de Dieu. Les croyances sont d'origine humaine. Elles aboutissent à des religions. Mais la foi est d'origine divine, elle est spirituelle et elle aboutit au salut et à la vie éternelle, ce qui est différent. Si Dieu ne nous donnait pas la possibilité d'avoir la foi, on ne pourrait même pas croire. Donc, Dieu a permis qu'on ait la foi, elle nous est communiquée par Dieu, et c'est encore une grâce, que son nom soit béni. Retenez ceci, c'est que dans les facteurs de la régénération, il y a les trois personnes de la Trinité qui sont à l'œuvre. Il y a le Père, il y a le Fils, et il y a le Saint-Esprit. Et puis, troisième grande partie, c'est les conséquences maintenant de la régénération. Première conséquence, alors on a cité déjà ce verset tout à l'heure, mais maintenant, si on est né de nouveau, Jésus disait, celui qui n'est pas né, il ne peut pas voir, il ne peut pas rentrer. Mais si on est né de nouveau, c'est donc logique, on peut voir maintenant et on peut entrer dans le royaume de Dieu. Ceci signifie que celui qui est né de nouveau, la première conséquence, c'est qu'il a une nouvelle perception des choses spirituelles. Il va réaliser qu'il y a un monde terrestre, mais qu'il y a aussi un monde spirituel, invisible, mais réel. Et on saisit maintenant les vérités du salut. On réalise qu'il y a le ciel et qu'il y a l'enfer, qu'il y a Dieu et ses anges et qu'il y a les démons, et qu'il y a Satan et ses démons qui agissent. Nous saisissons toutes ces réalités, non pas seulement intellectuellement, mais nous les croyons, nous les ressentons, nous les réalisons, et ça devient pour nous perceptible. En fait, pour schématiser, le royaume du diable existe, c'est ce que Jésus appelle l'empire de Satan, qui se développe dans le monde, et nous en faisions partie. Nous y avons été arrachés de là pour être transportés dans un autre royaume qui s'étend aussi dans le monde, c'est le royaume de Dieu. Et nous sommes, nous l'Église de Christ, membres du royaume de Dieu. On a changé de royaume. Toutes ces choses, nous les réalisons par la nouvelle naissance. Deuxième conséquence, après le fait de voir, d'entrer, d'expérimenter le royaume, on devient instantanément, par la nouvelle naissance, enfant de Dieu. Jean 1, verset 12 à 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair. » C'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'un homme lui-même, s'il a la volonté, il ne peut pas encore. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La nouvelle naissance, elle est là. Elle est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. Et il fait de nous ses enfants. Dieu nous a adoptés, et désormais, Dieu est devenu notre Père. Et nous pouvons l'appeler ainsi. Et même, j'avais évoqué ce verset où Paul l'appelle papa, Abba, Abba Père. Une relation, vraiment la relation des enfants avec leur papa. Et Jésus a enseigné cette prière, vous direz notre Père qui es aux cieux. Donc par la nouvelle naissance, maintenant, nous avons un Père spirituel. Il faut comprendre que nous avons changé d'influence paternelle. L'influence paternelle que nous avions à l'origine, c'est l'influence de Satan, qui est le prince de ce monde, qui agit dans le monde pour inculquer le mensonge, faire croire que Dieu n'existe pas, que l'enfer n'existe pas, pour faire sa volonté, etc. Jésus a d'ailleurs dit aux Juifs une parole très forte. Il a dit aux Juifs, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir ses désirs. Jésus n'était pas en train de dire, vous êtes possédé, mais il disait, vous êtes sous l'influence spirituelle du diable. C'est-à-dire qu'il va vous mener dans le refus de la grâce, il va vous mener dans le refus de Jésus, il va vous mener dans l'orgueil, dans le mensonge, etc., dans le péché. C'est ça l'influence spirituelle de Satan. Alors, bien sûr, c'est par ignorance, mais ils sont quand même condamnés. Tous ceux qui sont morts spirituellement subissent ainsi l'influence paternelle de l'ennemi, de Satan, qui communique la mort. Et la Bible dit qu'on est enfant de colère. On est soumis à cette influence, qu'on le veuille ou non, quand on est mort spirituellement. Par contre, tous ceux qui sont vivants spirituellement, ou régénérés, c'est le terme, régénérés, ils bénéficient maintenant d'un nouveau père spirituel, c'est Dieu, et d'une influence spirituelle nouvelle qui va communiquer la vie, de sorte que la Bible nous appelle maintenant enfants de Dieu. Et ce n'est pas tous les hommes qui sont enfants de Dieu. Parce que ça n'a pas été bien compris, où on a dit tous les êtres humains finalement sont des créatures de Dieu, donc ils sont enfants de Dieu. Oui, on est tous des créatures que Dieu a permis, qui existent, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Il y a une distinction dans la parole, car les enfants, ce sont ceux qui sont nés de Dieu spirituellement. Eux, ils peuvent appeler Dieu leur père. Les autres, pas encore, soit qu'ils le deviennent enfants de Dieu, mais ils sont encore sous une autre influence, et il faut que ils acceptent la grâce de Dieu qui soit sauvée. Troisième conséquence, après être devenu enfant de Dieu, on réalise maintenant qu'on a des frères et des sœurs. Si on a le même père spirituel, nous avons donc des frères et des sœurs et nous allons les aimer. Bien aimés, dit Jean, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Conséquence de la nouvelle naissance, c'est que mon cœur va être rempli d'amour pour les frères et pour les sœurs dans la foi. Et si nous réalisons vraiment que Dieu est notre Père, nous allons aimer forcément tous les autres enfants de Dieu. C'est automatique. Celui qui est né de Dieu, ainsi, va expérimenter ces choses, même s'il ne connaît pas ce chrétien ou cette chrétienne, mais du fait qu'il est aussi enfant de Dieu, il va y avoir une communion spirituelle immédiate qui va s'établir, un lien invisible qui unit, on peut dire, tous les croyants à la surface du globe, tous ceux qui sont nés de nouveau, eh bien nous faisons partie de cette grande famille de Dieu. C'est vrai qu'on a la famille Toulouse-Ouest, mais ça c'est la famille locale, église locale, mais néanmoins un lien invisible nous unit avec nos frères et sœurs de Sainte-Agne, il y a Toulouse-Minimes, il y a Colomiers-Muret, et puis la France, et puis il y a le monde entier qui sont formés d'une église, qui forme l'église de Christ. Ce lien, eh bien, c'est l'amour de Dieu qui le répand par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Ainsi, mon amour pour les autres va être une preuve que je suis réellement né de nouveau. Et au point que Jean dit dans le même épître que si quelqu'un n'aime pas son frère ou sa sœur, il n'a pas connu Dieu. Si bien que l'amour pour les frères et sœurs est un signe, un évident, de la nouvelle naissance. Quatrième élément, il ne pratique plus le péché. 1 Jean chapitre 3, verset 9, quiconque est né de Dieu, conséquence, ils ne pratiquent pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors il s'agit ici d'une pratique de péché, c'est-à-dire une vie continuelle qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Et ça, pour un enfant de Dieu, ce n'est pas possible. Il est repris dans sa conscience et tous ceux qui sont nés de Dieu aspirent à une vie spirituelle, à une vie de pureté. Alors cela ne veut pas dire qu'un enfant de Dieu ne va jamais pécher, hein, parce que Jean, dans la même épître, il dit « si nous disons que nous n'avons pas péché, c'est un mensonge ». Donc, c'est pas ça que ça veut dire, mais c'est la personne qui résolument continue à pécher sans se soucier de Dieu, ne se repent pas. Parce que quand on a péché, il y a toujours la repentance, revenir à Dieu. Et un chrétien authentique ne peut plus continuer à vivre comme tout le monde, sous prétexte que ben, les autres le font, la société le fait, alors moi je peux bien le faire. Savons que la société est sous l'influence du malin, nous sommes sous un autre père spirituel. Il y a des choses qu'on ne fait pas, même si les autres le font, savons que c'est mal, nous sommes différents du monde. Nous ne sommes plus comme le monde, dit la parole. Nous sommes différents et on ne peut pas, en tant qu'enfant de Dieu, avoir une communion avec le péché et se plaire dans le péché, sinon c'est qu'il y a un problème au niveau de la conversion. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, il y a quelque chose qu'on n'a pas vécu et qu'il faut vraiment travailler. Étant né de Dieu, donc, au contraire, un chrétien authentique, il va combattre le péché. Il va lutter contre ses influences, c'est un combat de tous les jours, et il va se repentir parce qu'il est attristé à chaque fois qu'il a péché et demande pardon à Dieu. Cinquième conséquence de cette nouvelle naissance, c'est que cette personne va pratiquer la justice. 1 Jean chapitre 2 verset 29, « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Va pratiquer la justice, c'est-à-dire qu'il va donner un bon témoignage du Dieu juste. Il va affectionner la vérité, la justice dans des situations où parfois il y en a qui font des compromis, où les mensonges sont admis, eh bien l'enfant de Dieu va se démarquer par son amour pour la justice de Dieu. Et il cherchera à vivre, non pas comme le monde le propose, mais conformément aux enseignements de la parole. Quitte à souffrir de la part du monde, quitte à être rejeté par les autres. Mais nous, notre désir, c'est de plaire au Seigneur, et nous sommes nés de Dieu, et nous voulons rendre un bon témoignage, faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, parce que Dieu le demande. Et le sixième et dernière conséquence, c'est que nous triomphons du monde. 1 Jean chapitre 5, verset 4, « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, ça c'est la conséquence, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Ça fait référence à la nature divine qui nous a été communiquée pas au moment de la nouvelle naissance. Cette nature divine va nous rendre victorieux, parce que le monde a ses tentations, le monde a des sollicitations, il a ses pièges. Cependant, nous n'avons rien à craindre parce que nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous ne devons pas fuir, mais tout est prévu dans la parole. Avec la régénération, nous avons les armes nécessaires pour triompher du monde. Ça signifie triompher du monde, ça veut dire refuser son influence, ne pas répondre à ses impératifs, ne pas chercher à lui plaire, ne pas chercher à l'imiter, être libéré de toute cette influence de cette société qui est conduite par l'adversaire. C'est ça, triompher du monde. Alors on a vu tous ces éléments. En conclusion, terminer cette parole, on a vu la régénération. Et en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une nécessité pour tous. On sera d'accord sur ce point. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est une nécessité absolue. On ne peut pas passer par un autre endroit pour être sauvé. Et pourtant, elle est inaccessible à la totalité des hommes, par leur nature. Donc, il faut qu'on soit né de nouveau, et pourtant, comment le faire? Eh bien, c'est là qu'intervient Jésus, qui nous propose la solution, parce que c'est un miracle, la nouvelle naissance, et si nous croyons en Jésus, si nous nous confions en lui, il nous fera vivre cette expérience, qui sera le démarrage d'une vie chrétienne. le miracle de la nouvelle naissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans un cœur qui va nous permettre d'accéder au salut, qui va nous faire devenir enfants de Dieu et membres du royaume de Dieu. C'est donc une expérience indispensable sans laquelle on ne peut pas dire qu'on est chrétien, on est toujours perdu, on est toujours sans espérance. Même si on va à l'église, même si on pratique une religion, il n'y a pas d'autre solution. Alors on va prier quelques instants le Seigneur, et peut-être le Saint-Esprit parle à un cœur ce matin, et je m'adresse à celui ou celle pour qui ces expressions de nouvelle naissance sont peut-être nouvelles, qu'il n'a pas entendu ou qu'il ne comprend pas. Eh bien, c'est pour vous. Le Seigneur s'adresse à vous ce matin. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous êtes encore perdu. Vous avez besoin de vivre cette expérience. Et on va prier le Seigneur pour qu'il vous fasse grâce. Vous avez peut-être le désir de rencontrer le Seigneur, c'est une bonne chose. Le désir de devenir chrétien. Mais sans cette nouvelle naissance, ça ne sera pas possible. Il vous faut vivre cette expérience. Et alors, vous aurez la foi. Vous aurez une vie nouvelle avec le Seigneur. Et vous réaliserez toutes les choses spirituelles. Merci pour ta parole qui nous enseigne la régénération et tout cette action de l'Esprit qui est dans le monde pour amener des gens à la repentance. Et nous te prions, Seigneur, maintenant d'agir dans les cœurs, peut-être de celui ou celle qui ne t'appartient pas encore, afin qu'il réalise maintenant son état de péché, comme tu le fais par l'Esprit qui convainc de péché, que tu lui montres la noirceur de sa vie, de son âme qui est séparée de toi, afin de lui faire prendre conscience qu'il est perdu maintenant et qu'il a besoin de ta grâce et qu'il a besoin de cette main qui vient d'en haut pour le secourir. Je te prie, Seigneur, pour que tu fasses grâce à ces personnes pour communiquer ces nouvelles naissances, ces vies spirituelles que toi seul peux créer dans les cœurs. Ô Jésus, nous te prions de faire grâce comme tu l'as fait pour nous-mêmes. Et nous te prions de continuer à renouveler par ton esprit tous les croyants qui ont été régénérés, qui ont cette nature nouvelle, Seigneur. Fortifie notre être intérieur. Permets-nous, Seigneur, de développer encore cette communion avec l'Esprit de Dieu, avec ta personne, et à nous réjouir sans cesse de ce que tu nous as sauvés par grâce, hein, et de ce que nous faisons partie de cette famille merveilleuse qu'est l'Église, l'Église de Christ. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Dans le nom de Jésus, te bénissons. Amen.